Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau, avec autour du micro Pierre Barry.
Bonjour.
Et Michel Lafont, bonjour. 8 nouveautés à l'affiche des écrans Manceau cette semaine. Mercato, L'Attachement, When the Light Breaks, avec ou sans enfants, Brian Jones et les Rolling Stones, Monkey, Dis-moi juste que tu m'aimes, September and July. Pour ce qui est de la programmation musicale, ça sera presque exclusivement des titres que l'on entend dans le film L'Attachement, parce que je n'ai pas pris de chanson des Stones, parce que je n'ai pas vu le film des Stones, donc je ne sais pas celle qui était dans le film. Il y en a forcément.
Il y a surtout des allusions, on n'entend pas beaucoup de musique.
Ah bon, d'accord. Mais... Bon, alors donc, pas de regret. Alors, on commence par un titre que Pierre a connu, interprété par Michel Fugain, mais c'est un titre brésilien à l'origine, c'est Maria Creuza. Ça s'appelle Você Abusou et c'était en français. Non ?
Ah bah je sais pas, je l'entends pas donc.
Ah bah je croyais que tu pensais.
C'est comme l'oiseau, non ?
C'est ça, voilà.
Não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você. Faz mal, é tão normal ter desamor. É tão cafona sofrer dor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você. Neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você. De mim abusou.
Maria Creusa, Vossé Abusso, et on entend ce titre dans le film L'Attachement. On commence notre semaine cinématographique avec Mercato. Mercato est proposé au Méga CGR et au Pâté Quinconce. C'est un film de Tristan Seguela, réalisateur et scénariste, qui a commencé par des épisodes de série, et puis en 2012 un premier long-métrage, 16 ans ou presque, avec Laurent Lafitte et Christophe Malavoie. 2016, Rattrapage. 2019, Docteur, point d'interrogation, avec Michel Blanc et Hakim Jemili. Ça devait être un de ses tout premiers films, Hakim Jemili. 2023, Un homme heureux, avec Fabrice Lucchini et Catherine Froh, et puis il est aussi le réalisateur de la série pour Netflix Tapis. Pierre, parle-nous de Mercato.
Durée 1h59.
Autant dire 2h.
Oui, 2h, oui. Avec Jamel Debbouze, Monia Chokri et Hakim Jemili. Le synopsis, Mercato nous plonge dans les coulisses du football d'aujourd'hui, industrie planétaire où les intérêts se chiffrent en milliards. Driss, agent de joueur, a 7 jours pour sauver sa peau avant la fin du Mercato. La revue de presse, Ouest France avec Pascal Vergerot, un film haletant de bout en bout. 20 minutes avec Caroline Vier. Le film mêle intrigue policière et exploration du monde du football professionnel, permettant à Jamel Debbouze de confirmer qu'il peut tenir un long métrage dramatique de façon convaincante, s'éloignant de son image de comique. Le Figaro avec Étienne Sorin. Mercato confirme que les meilleurs films de sport se situent souvent loin des terrains. Le Journal du Dimanche avec Baptiste Thion. Le film tient en haleine de bout en bout et peut compter sur une solide distribution avec un Hakim Jemili très drôle en fouteux, plus intéressé par la vie nocturne que par le terrain, et un Jamel Debbouze qu'on n'avait pas vu aussi inspiré depuis longtemps. Les Échos avec Olivier Debrune, un film percutant malgré ses maladresses avec un Jamel Debbouze époustouflant. La Croix avec Corinne Renoux-Nativelle. Tristan Seguela, réalisateur de la série Tapis, réussit un passionnant thriller porté par Jamel Debbouze sur les coulisses du football qui séduira autant ses aficionados que les autres. Les Inoccupables avec Théo Ribeton. Une tentative certes fastidieuse mais assez rare de faire couler dans le thriller français un sang inhabituellement chaud sans beaufisme ni forfanterie. Libération avec l'élo Jimmy Battista. Le film reste relativement décent, surtout dans sa première partie où Jamel Debbouze joue habilement de ses vieux tours, énergie épileptique, punchlines pétaradantes, feeling semi-improvisé, assurant un spectacle assez réjouissant. Télé 7 jours avec Julien Barcillon. Sous la forme d'un thriller tendu, Tristan Seguela signe un film prenant sur le sport business, esquive pas mal de clichés, dribble tout manichéisme facile sans verser dans un angélisme ou une diabolisation qui serait forcément hors jeu. Télérama avec Guillemette Odissino, un thriller efficace et tendu dans le foot business. Et enfin Paris Match avec Fabrice Leclerc. Dommage que le film trop long finisse par diluer son propos.
Mercato, c'est proposé au Pâté Quinconce et au Méga CGR. C'est un thriller, alors je reprends le terme, haletant et passionnant, qui ne connaît pas la moindre baisse de rythme en 2 heures, c'est quand même assez rare, sur les coulisses du foot business à travers l'histoire de Driss. Alors Driss est un exceptionnel Jamel Debbouze dans un contre-emploi absolu dont il se sort d'ailleurs remarquablement bien, tout en gardant ce qui fait sa singularité personnelle, la tchatche, le sens de la formule, l'énergie dans un personnage à la fois attachant, paumé et roublard. Vraiment une grosse, grosse prestation de Jamel Debbouze qui joue donc un agent de footballeur qui a 7 jours pour conclure un deal pendant le mercato pour pouvoir éponger, grâce à sa commission, une dette contractée envers des truands qui ne plaisantent pas. Le film, c'est donc une course contre la montre à la réalisation hyper speedée et fluide où Driss est confronté à une série de situations qui sont comme des études de cas de ce à quoi peut être exposé un agent de joueur. Par exemple, le joueur plein de talent mais capricieux et blacklisté par son propre club. Là, c'est joué par Hakim Jemili, et on pense un petit peu à Atem Ben Arfa, par exemple. Ensuite, on a un autre cas, c'est la toute jeune pépite qu'il s'agit de placer dans un club, une petite pépite de 12 ans. On pense à des tas de joueurs qui ont connu cette situation-là. Et puis il y a la star mondiale avec son entourage toxique et intéressé. Et en plus, Driss doit résoudre un problème personnel, sa relation avec son fils adolescent, qu'il a négligé pour s'occuper de ses poulains, et qui lui, alors ce fils qui lui reproche, eh bien lui qui est un jeune idéaliste, écolo et anti-système, d'être justement partie prenante de ce système capitaliste avec lequel le personnage de Driss tente de retisser les liens. C'est un grand film sur le sport, comme on n'avait pas vu depuis très longtemps. Très souvent, on a droit à des comédies plus ou moins réussies avec plein de guests sur le sport, notamment sur le football. Ici, non, pas du tout. Ici, le ton est dramatique, le casting très, très convaincant, l'intensité permanente grâce à un montage survitaminé, un film très bien documenté, semble-t-il. Absolument remarquable, voire absolument, encore plus si vous êtes un fan de foot. C'est à voir absolument. Même si vous n'êtes pas un fan de foot, le thriller est tellement bien mené que c'est vraiment à voir. Pierre, je te le recommande.
Ok.
On passe à L'Attachement, que je vais te recommander aussi d'ailleurs, qui est dans un registre diamétralement opposé. L'Attachement, c'est un film français qui est proposé aux cinéastes, uniquement aux cinéastes. La réalisatrice, c'est Karine Tardieu, réalisatrice scénariste née en 73. Elle a commencé par les courts-métrages, et puis 2007, La tête de maman avec Karine Viard et Kad Merad. 2011, Du vent dans les mollets avec Agnès Jaoui, Denis Podalydès, Isabelle Carré. 2017, Au témoin d'un doute avec François Damien, Cécile de France. Et 2020, Les jeunes amants avec Fanny Ardant, Melvite Poupeau et Cécile de France.
Oui, je crois qu'il est au pâté aussi.
L'Attachement, exactement. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, il est aussi au pâté. Oui, tu as raison, absolument.
Alors, durée 1h45 avec Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaille et Vimala Ponce. Le synopsis. Sandra, quinquagénaire farouchement indépendante, partage soudainement et malgré elle l'intimité de son voisin de palier et de ses deux enfants. Contre toute attente, elle s'attache peu à peu à cette famille d'adoption. La revue de presse. Ouest France avec Laurent Beauvallet, un film émouvant qui laisse une trace profonde. 20 minutes avec Caroline Vier. Cette ode à la solidarité fait un bien fou en célébrant une affection pleine de tendresse. La tribune du dimanche avec Aurélien Cabrol. Avec L'Attachement, Karine Tardieu signe incontestablement son meilleur film à ce jour, faisant preuve d'une réelle maîtrise et d'une capacité à faire naître l'émotion sans jamais sombrer dans la mièvrerie. Le Figaro avec Eric Neuhoff. Pour adapter le roman d'Alice Fernet, L'Intimité, Karine Tardieu a choisi la sérénité et raconte avec beaucoup de tact le quotidien mouvementé d'un jeune veuf tout juste devenu père, aidé par sa voisine. Le Journal du Dimanche avec Barbara Théat. Les acteurs, tous d'une grande justesse et des dialogues mordants, emportent cette histoire tour à tour dramatique et drôle, jamais larmoyante, surtout formidablement émouvante et réconfortante. Le Parisien avec Renaud Barognan. Belle histoire mise en scène au cordeau et très bien interprétée par une petite troupe chorale, L'Attachement vaut en particulier pour la composition d'une grande justesse de Valeria Bruni Tedeschi à contre-emploi en vieille fille un peu revêche qui va s'ouvrir à la vie au contact d'un enfant. Paris Match avec Marie-Laure Delorme. Un bonheur, un film sans évidence, sans leçon, sans idéologie. Et enfin, Les Inrecuptibles avec Marie-Lou Duponchel. Le film est édulcoré par une dose trop haute de bons sentiments qui neutralise l'ombre mélancolique et la noirceur qui font pourtant l'empreinte des modèles du genre que le film convoite.
L'Attachement est donc proposé aux pâtés quinconces et aux cinéastes. C'est Sandra, une quinquagénaire, célibataire assumée, sans enfant, et qui voit sa vie bouleversée malgré elle, à la suite du drame qui va frapper ses voisins de palier, un couple avec un petit garçon dont la femme décède lors de son accouchement. Et donc le mari désemparé se retrouve seul pour élever ses deux enfants. Et dans ces deux enfants, il y a donc un nouveau-né, puisque la mère est morte en couche, mais la petite fille a survécu. Et cette vie, les 24 premiers mois de la vie de cette petite fille vont servir de fil rouge sur les deux ans que dure cette chronique faite de hauts et de bas sentimentaux. Chronique donc, oui, chronique de la vie de Sandra et des gens que désormais elle va fréquenter et qui vont faire partie de son quotidien, à commencer par Alex et donc ses deux enfants, auquel Sandra va s'attacher, d'où le titre du film. C'est un film sur les nouvelles formes de parenté, sur l'attachement que l'on peut ressentir pour des enfants qui ne sont pas les siens, sur les familles recomposées, sur le deuil. Bref, un film à la thématique riche, au ton extrêmement juste et émouvant, réalisé avec sobriété et empathie pour ses personnages, toujours tous magnifiquement interprétés. Bien sûr, on commence par Valérie Bruni-Tedeschi dans une sorte de contre-emploi, mais aussi Pio Marmaille en bonhomme dévasté, puis résilient avec sa nouvelle histoire d'amour. Mais dans les seconds rôles, il y a aussi Damien Bonnard, excellent, Vima Laponce, Marie-Christine Barrault dans une seule scène très 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 belle également. Vraiment un film avec un casting qui est parfait jusque dans les plus petits seconds rôles. Un film qui parle de notre époque, de féminisme de façon posée et intelligente, qui aborde de nombreux sujets de société avec tact et émotion, ce qui fait qu'on s'attache à tous ces personnages, à leur fêlure, à leurs atermoiements, leurs contradictions, tant ces portraits sont justes et sont nuancés. Donc c'est un vrai bon film, extrêmement bien écrit, qui a des choses à dire, qui le fait brillamment, avec beaucoup d'émotion, de tendresse, de délicatesse, dans la description de ces portraits d'êtres humains auxquels on peut s'identifier dans leur complexité. J'ai eu de la chance cette semaine, j'ai vu quand même deux très bons films, et ensuite on va en parler un bon et un pas terrible. Mais celui-là, L'attachement, je le recommande aussi extrêmement, parce qu'il est vraiment excellent. Voilà, donc L'attachement, Pathé Quinconce et... cinéaste. Tout comme au cinéaste, vous pouvez voir When the Lights Breaks. C'est un film islandais de Runar Runarsson, réalisateur, scénariste et producteur, origine donc de cette île. Né en 77, il a commencé par le court-métrage, un premier long en 2011, Volcano, mais qui semble inédit en France, et puis les deux autres ont été distribués en 2015, Sparrows, et en 2022, Echo. Voilà ce qu'il faut savoir sur le réalisateur Runar Runarsson. Son film dure 1h22. Le jour se lève sur une longue journée d'été en Islande. D'un coucher de soleil à l'autre, Una, une jeune étudiante en art, rencontre l'amour, l'amitié, le chagrin et la beauté. Alors, le titre original, c'est pas When the Light Breaks, c'est Ljósbrot. Alors, pourquoi est-ce qu'on a traduit ça en français When the Light Breaks? Je m'étonnerais que ce soit la traduction littérale de Ljósbrot.
C'est l'islandais, alors?
Ben, oui, voilà.
Donc, je comprends pas.
Ben, moi non plus, hein, mais je doute que ça veuille dire « When the light breaks », un seul mot pour une phrase. Enfin, bon, passons. Ça dure 1h22, je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter. L'Humanité, Michael Mélinard, parle d'un magnifique récit d'apprentissage. Florence Viron du Figaro, d'un film âpre et éclatant. Baptiste Thion dans le Journal du Dimanche, un film d'une rare délicatesse, refusant le pathos sans empêcher l'émotion, dans une mise en scène épurée mais inspirée jusqu'au beau final, faisant écho à son ouverture pour conclure cette éprouvante journée entre ombre et lumière. Renaud Baronian, Le Parisien, sublime sur la forme, très joliment interprété et contant une histoire singulière, ce long métrage islandais multiplie les audaces et touche au cœur. Céline Rouden dans La Croix, une magnifique méditation sur le deuil et la vie qui continue. Le Monde, avec ce quatrième long métrage, le réalisateur Runar Runarsson reste fidèle à une esthétique. Il tourne ses films en décor naturel, en un 16 mm dont il apprécie la sensibilité, autant qu'une éthique, rendre compte par les moyens du cinéma de la complexité de l'expérience humaine. Marie Sauvion dans Télérama, un drame lumineux entre épure et émotion. Richesse pour West France, en dépit d'un magnifique travail sur la lumière et les cadres, cette chronique souffre d'un récit trop téléphoné pour connaître l'émotion. Je ne crois pas que ce soit ton avis, Pierre.
Non, je suis plutôt de l'avis des précédents. J'ai beaucoup aimé. Alors, When the Light Breaks, traduction, lorsque la lumière s'arrête. Donc, pour ce film, eh bien, moi, j'ai vu que ce titre était une métaphore du passage de la vie au trépas. Ce film a été présenté au dernier Festival de Cannes, mais dans le cadre de « Un certain regard ». Donc il faut s'attendre à quelque chose de spécial, de particulier, et c'est le cas pour ce film. Mais moi j'aime beaucoup ce genre, d'ailleurs j'aime beaucoup les films finlandais, mais ça m'a rappelé un petit peu ça aussi. Et en plus c'est court, un petit peu plus d'1h20, c'est lent, parfois même figé, un peu comme les films asiatiques, des plans-séquences sur le visage ou la nuque d'Una. Oui, ils disent Donna en islandais, parce que j'ai entendu dans VO, évidemment.
Oui, bien sûr.
Merveilleusement interprétée par Elin Hall, déjà très connue en Islande comme chanteuse, peut-être au moins comme actrice, et jusqu'à 2024, et Cannes donc. La bande-son a aussi son importance dans ce film, qui raconte donc la perte d'un être cher, en l'occurrence la perte du petit copain de l'héroïne, mais aussi la résilience progressive jusqu'à un bonheur retrouvé à la fin du film. Un film qui reste dans ma mémoire, ce qui veut dire que c'est bien.
Bien, eh ben, on a de la chance jusqu'à maintenant, trois films appréciés. C'est très bien. Allez, hop, pause musicale dans l'attachement. On entend cette chanson des Pretenders, Don't Get Me Wrong.
Ah oui.
C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
Ça vient.
Ça vient. Pretenders, Don't Get Me Wrong, et on entend ce titre dans le film L'Attachement. Avec ou sans enfant, c'est la question qui se pose et que pose Elsa Blayot dans ce film proposé au Colisée et au Méga CGR. C'est un premier long métrage, Elsa Blayot, réalisatrice qui avait à son actif jusqu'à maintenant trois courts métrages et des épisodes de la série OPJ. Pierre va nous parler avec ou sans enfant, mais il ne va pas nous en parler très longuement parce que la presse ne s'est pas déchaînée sur le film. Hein.
Je vois ça, oui. Durée 1h26 avec Bertrand Huskla, Ryan Benzetti et Tiffaine Davio. Le synopsis, quand Pio et Anaïs annoncent leur mariage à leurs amis, c'est clair, ce sera sans enfant. Trois jours de fête et de prosecco en perspective, mais quand leur bande de potes débarque avec les enfants, pensant pouvoir les cacher aux mariés, les catastrophes vont très vite arriver. La revue de presse brève, donc, Le Parisien, avec Pauline Corradson. Cette situation entraîne un déferlement de gags, souvent hilarants, et ce film choral de potes plein de fraîcheur évite l'écueil du déjà-vu. C'est rythmé, bien écrit, et les acteurs sont impeccables.
Bon, ça doit être la cousine de Elsa Bayou, la réalisatrice.
Ouais, mais là, ça va aller moins bien maintenant, avec Télérama, avec Johan Haddad. Cette comédie légère rate le coche, à la fois trop sage pour se révéler véritablement subversive et trop méchante pour plaire à un public familial. Reste une énergie de groupe assez plaisante, alimentée par le sympathique cabotinage des acteurs, Bertrand Huskla en tête.
Voilà, avec ou sans enfants, ils étaient quatre couples de trentenaires inséparables, partant par exemple tous les ans ensemble en vacances. Mais depuis que trois de ces couples ont fait des enfants, ben, les liens se sont un peu distendus. Alors, pour renouer et revivre un moment comme autrefois, le quatrième couple, Pio et Anaïs, décide que, pour son mariage, tous se retrouveront comme avant, entre eux, sans enfants, trois jours en Italie. Sauf que, pour des raisons diverses et variées, eh ben, les trois couples amènent leurs enfants en bas âge dans ce voyage, en faisant croire quand même à leurs amis qu'ils sont venus seuls. Donc c'est le début de toute une série de quiproquos et de malentendus qui durent une heure sur 1h30. Mais quand le pot de rose est découvert, ben tout dérape, c'est la dernière demi-heure. Les rancœurs ressurgissent, les vieux dossiers sont réouverts. Bon, voilà, c'est un nouvel exemple de comédie pas vraiment drôle, au dialogue fréquemment inaudible. Eh ben oui, tout le monde parle en même temps et sans vraiment articuler. Alors peut-être que je deviens sourd hein, avec l'âge, c'est une hypothèse fort possible hein, d'ailleurs. Mais enfin, j'arrive à entendre dans les autres films, donc je ne sais pas. Hein. N'empêche... Cela, ben, tout cela, c'est du réchauffé. Les situations ont déjà beaucoup servi dans le genre usure du couple, règlement de compte, plus les scènes, elles aussi, attendues avec les enfants capricieux, le bébé dont on change les couches et qui fait pipi. Enfin bon, ça a servi beaucoup, beaucoup. Et c'est surtout ben, qu'il n'y a pas la moindre originalité là-dedans. C'est pour ça que je dis que la première critique, c'est certainement la cousine d'Elsa Bayou. Hein, parce que les films de potes, c'est bien hein, quand ils sont bons. C'est sans grand intérêt quand on a cette impression de déjà vu. Et là, c'est le cas. Mais comme il s'agit quand même d'un film générationnel, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour juger, vu que ce n'est évidemment pas ma génération, puisque là, ce sont des trentenaires, et moi, je suis un septuagénaire bientôt. Voilà, donc, avec ou sans enfants, Colisée et Méga CGR. Brian Jones et les Rolling Stones, cette fois-ci, eh ben, on repart au cinéaste pour un film qui a droit à une séance par jour.
À peine,
et encore même pas tous les jours, d'ailleurs. C'est réalisé par Nick Broomfield. Alors, c'est un film qui dure 1h38 et c'est donc, je répète, un documentaire. Alors, marrant, le titre original c'est The Stones and Brian Jones et le titre français c'est Brian Jones et les Rolling Stones.
Oui, bon, c'est.
Oui, alors bon, pourquoi ils ont émercé, je ne sais pas. Bon, passons. Voilà. Alors, qui se souvient vraiment de Brian Jones? Pourtant, il est le visionnaire à l'origine des Rolling Stones. À travers des interviews exclusives de proches, de membres du groupe et grâce à des archives rares et inédites, ce documentaire retrace l'incroyable parcours de ce musicien de génie. Célébrant son rôle fondamental dans la naissance et le succès des Rolling Stones, le film plonge au cœur des tensions internes qui ont conduit à son éviction tragique, révélant une histoire fascinante et bouleversante sur l'ascension du plus grand groupe de rock de tous les temps. Ça va faire plaisir aux fans des Beatles. Alors, Ludovic Perrin, le journal du dimanche, le documentariste Nick Broomfield, plutôt que de s'égarer dans des thèses farfelues, reprend le film chronologique de cette tragédie humaine et artistique pour en comprendre les rouages. La rédaction du Point parle d'un film documentaire très détaillé. Marianne, sous la plume de Stéphane Koechlin, d'un superbe film documentaire, et le magazine Rolling Stone, c'était le moins qu'on puisse attendre d'eux, parle d'une vraie réussite sous la plume de Xavier Bonnet. Fabrice Plisquin, dans l'Obs, lui déclare que ce docu bancal oscille entre la géographie, Brian l'anti-Jagger, le martyr de la pureté non commerciale, et le trash, Brian le junkie, qui engrosse toutes ses compagnes avant de les abandonner. Alors, Pierre, tu es de quel côté, toi ?
Ah ben moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à faire court dans mon commentaire.
Eh ben, vas-y, fais-le.
Il y a tellement de choses là-dedans. Donc, dans le synopsis, on trouve cette question, on l'a entendu avec toi, Michel. Qui se souvient vraiment de Brian Jones? Eh bien, ma réponse est sans hésitation. Moi.
Oui, moi aussi, d'ailleurs.
Je suis sûrement pas le seul, ouais. Qui présente chaque semaine une émission sur les années 60 sur cette antenne. Petite pub.
Voilà.
Mais si je connaissais le guitariste et aussi multi-instrumentiste, j'ai beaucoup appris dans ce documentaire sur sa relation avec les autres membres du groupe, notamment Mick Jagger, et aussi sur sa vie intime très instable. Mick Jagger était jaloux du succès de Brian Jones auprès des filles. C'est vrai qu'il était beau, Brian Jones. Et parallèlement, ce dernier était très frustré de ne pas écrire de chansons dont il n'était pas inspiré pour écrire. Quant à sa vie intime, eh bien Brian a vraisemblablement 8 enfants, ce nombre restant flou du fait de ses nombreuses relations féminines, au nombre estimé aussi à 8, enfin du moins officiel, parce qu'il y avait certainement des aventures brèves aussi. J'ai aussi appris que Lady Jane, la chanson, oui, avait vraiment existé. D'ailleurs, on la voit témoigner dans ce film, contrairement à Eleanor Rigby des Beatles, qui est un personnage fictif. Enfin, rappelons que Brian est mort dans sa piscine le 3 juillet 69, peu de temps après avoir été viré du groupe qu'il avait pourtant fondé, ce qu'il n'a pas supporté, évidemment. Il était alcoolique, drogué. Vous l'avez compris, j'ai adoré. Dernière chose, fan des 60s, fan au pluriel, prochaine séance au cinéaste, ce soir 20h30, dimanche 13h30 et mardi 18h45.
Ah bah dis donc, on a eu droit à toute la...
Et encore, je me suis retenu parce que... Ah oui, je voulais dire aussi...
Vas-y.
On entend une longue interview du bassiste Bill Wyman qui a quitté les Stones il y a déjà un moment. Et ah oui, c'est intéressant ce qu'il raconte, oui. Voilà. C'est tout.
Alors, donc, c'est au cinéaste. Donc, et vous avez entendu même les horaires. The Monkey, c'est proposé par le Méga CGR et, je pense, le Pathé Quinconce. J'en jurerai pas, mais je pense que oui. C'est un film d'Osgood Perkins, interdit moins de 12 ans. 1h38, c'est de l'horreur. Hein. Donc, Osgood Perkins, acteur, réalisateur, scénariste américain en 1974. Premier film en 2015, February, envoyé en VOD. 2016, un autre film envoyé sur Netflix. 2020, Gretel and Hansel en DVD. Et le seul qui a été distribué en France, moi je l'ai vu, c'est en 2024, Long Legs, avec Nicolas Cage. The Monkey, donc 1h38, lorsque Bill et Al, des jumeaux, trouvent dans le grenier un vieux jouet ayant appartenu à leur père, une série de morts atroces commence à se produire autour d'eux. Alors, écran large, sous la plume de Mathieu Jaborska, une étrange comédie très macabre, qui plus est généreuse en gore grand guignol, si seulement le cinéma américain pouvait nous en proposer plus souvent. Le Parisien, bon sang, ne saurait mentir, certes, et Perkins, qui a joué gamin dans le Psychose 2, où son père, c'est Anthony Perkins, reprenait son rôle du fou meurtrier Norman Bates, a clairement été à bonne école, mais il prouve avec son nouveau film qu'il reste un auteur à suivre en priorité. Télérama, l'ensemble imprévisible mais pas tout à fait satisfaisant au plan de l'écriture des personnages. L'aîné n'est qu'une petite boule de rage matinée de folie vengeresse. Vengeresse n'est pas parfait, mais parfaitement méchant. Bah, je n'ai pas vu, je ne suis pas décidé à aller le voir ce film-là. The Monkey, donc c'est au Méga CGR et je crois au Pathé Quinconce. Pathé Quinconce, c'est à vérifier. Pause musicale. Alors, c'est toujours un titre que l'on entend dans le film L'Attachement. Et ben, cette fois-ci, c'est manouche un petit peu. Hein. Ça s'appelle Dobri. Alors, Dobri Dien Romale, c'est pas français évidemment. Eric Slabiak, vous allez écouter, c'est très, très, très plaisant sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Riker bez priopci zvida stojna, namangav me bolše ničevo. Rančeroma pjena zguline nas, najsisso di elimi save. So ker dia pea canaro male, na pola sa ye kie chesame. Tu san za baikalsko, ai sibirsko, ai rasisko romano shavo. Rike pres priopši zvida stojna, na mangav me bolše ničevo.
Dobri Dien Romale, Eric Slabiak, c'est un titre que l'on entend, il me semble bien, à deux reprises dans le film L'Attachement. Très bon film dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dis-moi juste que tu m'aimes. C'est un film de Anne Leny, réalisatrice, scénariste née en 69, mais aussi actrice, on l'a vu dans pas mal de films. Mais elle est passée à la réalisation dès 2007 avec Ce qui reste, avec Vincent Lindon et Emmanuel DeVos. 2009, Les invités de mon père, avec Fabrice Luchini, Karine Viard. 2011, Cornouailles, avec Vanessa Paradis, Samuel Le Bihan. 2013, On a failli être amis, avec Karine Viard, Emmanuel DeVos, Roche Dizem. 2018, La monnaie de leur pièce, avec Julia Piaton et Baptiste Le Caplain. Et 2022, Le torrent, avec José Garcia et André Dussolier. Des films qui sont pas mal, tout ça, hein. Alors, le film est proposé au Pâté Quinconce, au Méga CGR et au Colisée, je crois bien. Et donc, Pierre vous en parle tout de suite.
Durée 1h51, avec Omar Sy, Élodie Bouchez et Vanessa Paradis. Le synopsis, au bout de 15 ans de mariage, une crise met à l'épreuve l'union de Julien et Marie. Dans le couple, cette dernière a toujours été celle qui aimait le plus. Aussi, au moment où Anaël, le grand amour de jeunesse de son mari, Julien, réapparaît dans le paysage, Marie panique. Perdue dans une spirale infernale de jalousie et d'auto-dépréciation, Marie se laisse entraîner dans une aventure avec Thomas, son nouveau supérieur hiérarchique. Celui-ci va se révéler aussi manipulateur que dangereux, jusqu'à faire basculer leur liaison dans le fait divers. La revue de presse, Ouest France, un thriller psychologique efficace. Le journal du dimanche avec Barbara Théâtre, Avec son talent pour raconter des histoires toujours très humaines, Anne Leny réussit à mêler intrigues sentimentales, thriller prenant et réflexion sur la durabilité de l'amour, le temps de cette chronique riche en rebondissements. Le Parisien avec Catherine Ball, une sorte de liaison fatale en version bretonne et beaucoup plus sage, on croit au couple formé par Élodie Bouchez et Omar Sy, moins au personnage d'amant manipulateur joué par José Garcia. Télé 7 jours avec Isabelle Magnier, la réalisatrice signe un polar intimiste mais oublie d'y injecter du suspense. L'Obs avec Xavier Le Herpeur, la réalisatrice restreint et retient son geste, acheminant cette histoire de trahison et de manipulation amoureuse vers un final trop rapide et trop prudent. Mais les acteurs trouvent joliment leur place dans une mise en scène un rien ténue, mais qui les sert avec justesse. Et enfin, Le Figaro avec Éric Neuhoff. Avec ce récit prévisible et excessif, Anne Leny rate de peu un bon film.
Dis-moi que tu m'aimes, Colisée, Méga CGR et Pâté Quinconce. Et bien moi, je trouve que c'est un excellent thriller familial avec de multiples ressorts psychologiques. Marie et Julien donc forment un couple sans problème. Ils ont deux enfants, une belle maison qu'ils continuent à payer. Certes, l'amour des débuts, surtout celui de Marie pour Julien, a laissé place à un certain train-train, jusqu'à ce que deux événements viennent perturber cet équilibre. Marie apprend que Anaël, le premier et grand amour de Julien, est revenu en ville après 20 ans d'absence et elle se sent menacée par ce retour. En même temps, un de ses supérieurs hiérarchiques débarque dans son entreprise et vient auditer cette entreprise où elle travaille. Et au vu des circonstances, eh bien, elle se laisse entraîner dans une aventure extra-conjugale avec lui, dont elle ne sait pas que lui est un redoutable manipulateur. C'est un scénario qui tient vraiment la route de bout en bout. C'est excellemment construit, avec toutefois un tout petit bémol qui a été souligné, je crois, par une ou deux critiques, une fin un peu bâclée, mais c'est bâti sur toute une série de ressorts psychologiques, donc le manque de confiance en soi, la jalousie, la rancœur, l'épreuve du temps dans la vie d'un couple, la tentation de l'infidélité, mais aussi l'emprise, la manipulation. C'est une histoire intense, efficace, fort bien menée, avec un quatuor d'acteurs excellent, d'où se détache quand même José Garcia, en pervers narcissique de haute volée, et Élodie Bouchez, dont l'évolution du personnage est intéressante par sa complexité, parce qu'elle est tour à tour une femme inquiète, en manque de confiance, sous-emprise, puis combative. C'est un film à la facture classique, ça je le reconnais volontiers, mais c'est un film que je recommande aussi sans difficulté, alors c'est le scénario qui veut ça, hein, on en sait plus que les personnages durant la première heure. C'est un film vraiment prenant, et encore un film que j'ai beaucoup apprécié cette semaine.
Eh ben, y a beaucoup
de films
voilà, à voir,
oui, absolument. Hein. Dis-moi que tu m'aimes. Le seul que j'ai pas trop apprécié, c'est Avec ou sans enfants. Vous avez compris.
Oui.
Dernier film à l'affiche cette semaine, eh ben, c'est au cinéaste September and July, réalisé par Ariane Labed. Ariane Labed, c'est une actrice, réalisatrice, scénariste franco-grecque. Elle est née en 84. Elle a réalisé un court-métrage, des épisodes de série. C'est la compagne de Yorgos Lanthimos, qui explique qu'elle a joué dans plusieurs de ses films, comme Alps et The Lobster. Et puis on l'a vu la semaine dernière dans The Brutalist, Ariane Labed, September and July, 1h40, interdit moins de 12 ans. Allez savoir pourquoi le titre original s'appelle September 16 et là on a dit September and July. Bon, comme ça, voilà. Julie fait face à la cruauté du lycée grâce à la protection de sa sœur aînée September. Sheila, leur mère, s'inquiète lorsque September est renvoyé et Julie ou July en profite pour affirmer son indépendance. Après un événement mystérieux, elle se réfugie dans une maison de campagne, mais tout a changé. Guillaume Loison dans L'Obs, cruauté distillée à la façon d'un supplice chinois, imaginaire sculpté par la connivence barrée et la malice des deux adolescentes. Le film oscille entre burlesque abrasif et ironie affectueuse, maîtrisé de bout en bout, limite maniaque. Baptiste Thion, Le Journal du Dimanche, c'est peu dire que ce film nous a séduits, surpris jusqu'à l'inconfort même par son regard singulier sur l'adolescence, son mélange de prosaïsme cru et de fantastique, son atmosphère aussi fascinante qu'inquiétante. Fabrice Leclerc dans Paris Match, aussi solaire que dérangeant, brassant les thématiques, osant parfois le cinéma de genre, voire le fantastique, et surtout sans aucune concession. Aurélien Alain dans Cinématiseur, une étrangeté qui noie le poisson au risque de créer une distance, mais qui se révèle payante dans son dernier acte et son dernier plan renversant. Thierry Chaise dans Première, par sa manière de jouer avec les formats, 16 mm et 35 mm, d'un film qu'elle a voulu en pellicule, Ariane Labed épate par la pertinence de ses partis pris et sa capacité à ne jamais en dévier des débuts exaltants. Oui, c'est un premier film. Pauline Corradson, Le Parisien, on a envie de la secouer, July, qu'elle arrête de se laisser faire avec cet air de chien battu. C'est peut-être ce qui nous dérange dans ce film d'Ariane Labed, intime, intéressant, mais inégal. Chloé Delos, je ne sais pas si on prononce le S, Delos Erré. Télérama. Les airs de mystère qui auraient pu donner un élan au scénario tombent vite à plat, emportés par le poids d'un rythme languissant et d'une interprétation mécanique des deux actrices principales, Mia Taria et Pascal Kahn, à laquelle s'oppose tout de même celle plus organique de Raki Takar dans le rôle de Sheila. September and July, c'est proposé par les cinéastes et nous ne l'avons pas vu.
Non, mais je pense le voir.
Bon, oui. Eh bien voilà, donc ça. September and July. Avant de vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine et les avant-premières, eh bien, une petite pause musicale. Cette fois-ci, ça n'est pas dans le film L'Attachement. C'est l'un des titres qu'on entend dans le film Avec ou sans enfant. On a déjà entendu ce titre sur Radio Elpa. Tutti va bene quando facciamo l'amore. Tout va bien quand on fait l'amour. Voilà, hein, je pense que ça va être la traduction. Alex Rossi, c'est sur Radio Elpa, 107.3 FM Le Mans.
Alessandro.
Tutto va bene. Quando facciamo l'amore. Tutto va bene.
Tutto va bene.
Tutto va bene. Tutto va bene. Quando facciamo l'amore. Facciamo l'amore. Tutto va bene. Tutto va bene.
Va bene quando facciamo l'amore. Et c'est Alex Rossi qui chante cette chanson dans le film Avec ou sans enfant. Alors, on parle des avant-premières. Il y a des équipes de films qui se déplacent au Mans cette semaine. Dimanche 23, et ben, c'est l'équipe de Délocalisé, Redouane Bougueraba, et je pense qu'elle doit être son frère, le réalisateur. Il s'appelle Bougueraba, donc il y a des grandes chances. À 17h50 au Méga, à 18h15 au Pâté. Il est peut-être prudent de réserver sa place, je ne sais pas. Jeudi, c'est l'équipe de Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan qui sera au Méga CGR. Il y a Jonathan Cohen qui est prévu, Leïla Bekti et la réalisatrice. Et puis, alors c'est pas une avant-première, mais les cinéastes proposent une séance mardi 25 pour le film Personne n'y comprend rien, en présence, je crois, du réalisateur. C'est le film consacré à l'affaire Kadhafi-Sarkozy. Ah tu oui. l'as vu ça, Pierre?
Oui, je l'ai vu au Pâté parce qu'il a été sorti il y a quelques temps déjà.
Voilà, donc séance en présence de Anton Rouget, journaliste d'investigation à Mediapart, donc c'est pas le réalisateur.
Très intéressant.
Oui, alors évidemment, c'est un film complètement à charge sur Nicolas Sarkozy.
Oui,
mais
vrai.
Bon, on peut pas dans autre chose de Mediapart. C'est Mediapart qui a sorti, c'est quand même cette affaire.
Oui.
Voilà, donc cette semaine, on a beaucoup de recommandations à vous faire, Pierre.
Oh là là, oui. Alors, évidemment, les deux, j'ai beaucoup aimé, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. When the Light Breaks, et puis le documentaire sur Brian Jones et les Rolling Stones.
Et moi, je recommande absolument Mercato, L'Attachement, et même aussi Dis-moi juste que tu m'aimes.
Ah, ça en vous parlant, fait... tiens, des années 60, les cinéastes proposent Jersey Boys. Alors moi, je l'avais vu quand il était sorti.
Oui, c'est là.
C'est sur un groupe de oui. Four Seasons.
Exactement, oui. C'est la rétrospective Clint
Donc
Eastwood.
Ceux qui s'intéressent aux années 60, bah, allez voir aussi celui-là.
Ouais, ouais. Donc oui, c'est vrai, les rétrospectives continuent. Hein. C'est la rétrospective Clint Eastwood et il y a aussi la rétrospective Chantal Akerman avec Golden 80s. Voilà, voilà. Donc ça vous fait beaucoup de films à voir ce week-end.
Beaucoup, oui.
Voilà. Voilà. Ben, nous, on se retrouvera normalement la semaine prochaine pour Clap, mais je ne vous ai pas encore annoncé les films de la semaine prochaine. Alors, on vous les annonce. Cuir. Alors, Cuir, c'est pas C-U-I-R, c'est Q-U-2-E-R de Luca Guadagnino avec Daniel Craig. Il y aura À Bicyclette, un film de Mathias Mlekuz. Il y aura Real Pain de Jesse Eisenberg. Bonjour l'asile de Judith Davis. La vie devant moi de Nils Tavernier. Yokai, le monde des esprits, un film d'Eric Co ou Kou, je ne sais pas comment on doit dire, avec Catherine Deneuve, et puis un documentaire, L'énigme Velasquez. Je ne sais pas si les cinéastes arriveront à sortir les 5 films qu'ils ont prévus, s'ils auront assez de place, ou alors il y aura très peu de séances pour certains de ces films-là. Voilà, ben nous on se retrouve donc la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Au revoir.